on le sait, c'est clair, les supermarchés, les supermarchés par Leclerc, on prend 20 millions, c'est un hold-up, ok, on est d'accord. Les petites coques dans les petits villages sont en train de fermer les unes derrière les autres. Et on parvient là du siège de la COP. Le siège de la COP a été proposé à l'achat de la ville de Strasbourg, je vous dis, et ceci a été confirmé par M. Duvillier, président, directeur général de la COP, que j'ai rencontré, et par M. Jacques Bigot, président de la CUS, et que j'ai rencontré également. La COP a proposé de vendre, il y a 3 ans, le siège de la COP pour 20 millions d'euros. La ville de Strasbourg, la communauté urbaine, n'a pas pu l'acheter, et a proposé 3,5 millions d'euros. Donc on voit bien qu'il y a une dichotomie totale sur ce terrain-là, qui intéresse quand même fortement, et on comprend bien, la ville de Strasbourg, la ville dans son urbanisme. Il semblerait, moi, mon analyse est la suivante, elle ne regarde que moi. Je n'engage aucun parti politique quand je dis cela. Je dis, bien que dans l'association, et je parle en tant que président, sous le contrôle de 2 vice-présidents, qui sont un, Armand Jung, député PS, l'autre, Jean-Louis Christ, député UMP, dans le Haut-Rhin, de Rivoli, et de 40 petits maires. Je pense réellement que l'engeance ou la volonté des grands élus, à citer Philippe Richette, Kennel, Hübner et également la CUS, quelque part, ne vont pas aider à sauver la COP, c'est-à-dire son réseau, pour pouvoir, à un moment donné, laisser ce réseau à la portée de la grande distribution et de permettre, par là même, c'est une question un peu vicieuse ou un peu malhonnête, certainement de ma part, que le siège de la COP puisse tomber dans l'escarcelle du futur propriétaire pour le franc symbolique quand la COP aura été liquidée. Voilà, c'était juste une petite intervention politique qui ne regarde que moi, et je vous remercie d'avoir été là.
Je veux juste ajouter là-dessus que je ne crois pas du tout à ces prévisions aussi simples que ça. Un jour, et en contradiction avec l'actualité la plus brûlante, Dixit m'a dit, un jour, je tiens bien à prendre la COP, elle allait très mal parce qu'elle fait du commerce de proximité. Mais la COP va s'en sortir parce qu'elle continue à faire du commerce de proximité. Et à mon avis, mon pronostic est que avant 10 ans, c'est le verre qui sera cassé la gueule. Mais en tout cas, ça n'engage pas.
Celui qui avait tourné 1,4 million,
oui. Yves Der est celui qui actuellement est poursuivi, ou en tout cas en examen, pour un problème d'argent. Mais je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails.
Alors ça, je sais rien.
Oui.
Et moi, je ne le sais pas ici.
Oui, mais...
Quelque chose qui me paraît...
C'est de la propriété publique, hein, oui, pas moi, j'ai...
Non, non, rien n'est pas de l'autorité publique qui est de l'autorité journalistique dans le cadre...
Pas du tout, le PDG de la COP, le PDG a porté plainte, donc c'est bon, on est contre, moi je ne veux pas polémiquer là-dessus, je viens d'un petit village, et je me dis dans un petit village, la COP va disparaître, il y en a déjà 30 qui ont disparu, sur 140, et voilà.
Bah oui.
Étant tout à fait compréhensif par rapport au devenir de la COP, moi je voudrais vous revenir sur le projet, je trouve ça très intéressant, je te remercie à tous pour la présentation. Moi je fais partie des gens qui habitent la ville d'à côté, donc juste de l'autre côté du pont Poulot. Donc c'est aussi plus de 100 000 personnes actuellement, hein, avec beaucoup moins de commerce que celui que j'ai vu, donc je pense que je le sais bien, s'il y a des commerces ici, je pense que
c'est
là, on passe des soucis. On va peut-être juste arranger ça encore un peu pour les
boutons.
J'étais aussi intéressée de ce que tu dis par rapport au port. Je pense que les gens qui habitent ce quartier n'ont pas peur du port. Et les gens qui commencent à venir habiter ce quartier n'ont pas peur du port non plus. Et n'ont pas peur des voies ferrées non plus. Alors par contre, ce qu'on pourrait espérer, c'est quand même qu'il y ait des améliorations des process, parce que c'est vrai que ça sent pas très bon et c'est vrai qu'il y a des poussières quand même. Mais ça, faisons confiance quand même à la société, je pense que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 40 ans, puisque tu parles de dans 40 ans, ces choses-là ont beaucoup évolué. Moi, je suis assez partante aussi pour quelque chose de très mixte en termes de culture, habitat, activité. Je trouve que ça, c'est vraiment ce qu'on peut espérer à ne pas nous sortir de ville, on n'est même pas à 10 minutes à vélo. De l'autre côté du pont, il y a l'université. Donc, une cité universitaire, et je vous annonce que les premiers colocataires étudiants sont arrivés dans le quartier qui est juste à côté. Donc, on peut espérer quand même qu'effectivement, il y aura du ciel d'offre étudiant. Les gens se croient d'autres. C'est sur le trajet direct pour aller en Allemagne. En Allemagne, actuellement, ben, les étudiants ils vont s'approvisionner parce que c'est quand même nettement moins cher que d'autres étudiants. Donc, je vais m'arrêter là, mais je crois que ce projet il est vraiment très ambitieux.
Une question, vous levez la main, j'en ai noté ici. Si on peut lui passer plus haut, je peux vous dire. Une question là-bas. Et puis après, on va mettre en chemin.
C'est
la
possibilité à procéder. J'ai eu l'occasion de travailler avec un compère sur le chantier de Génard. Et puis j'habite sur ce site-là, et en même temps, je pense que je vais refaire ailleurs, et l'espace se refaire dans son vie.
Ah, merci.
Alors là, vous avez un super ensemble de bureaux, mais pour moi, soit c'est une friche bureautique. Parce que là, il n'y a plus rien. D'un côté, il y a des bureaux, et c'est déjà très difficile de y aller, parce qu'il n'y a pas de moyen de promotion, ça, si vous avez des nuls. Et actuellement, vous savez comment ça se passe. En ville pour avoir une flotte. Alors que là, je pense que ce projet-là, on parle de cité, c'est important. Parce que sinon, on va faire des guillemets de logement dans un endroit, de bureaux dans un autre endroit, pour moi, c'est plus un problème. C'est refaire des erreurs qu'on a fait dans les années 60. La question que pour des projets comme ça, c'est peut-être un peu changé, mais ils ont bien compris que nous n'oublions pas ce qu'ils ont levé, ils voient ce qu'ils voient dans la tête.
Monsieur Tacquelé, allons-y, et puis après Chalou. Tu veux ? Là, tu seras bien. Tout ça ? Tu en as pas longtemps ? Allez, passe ta question, passe à
Monsieur Tacquelé. Sur l'animation du bateau. Donc il y a 100 ans, les photos, il y a 100 ans, on montre des bateaux partout. C'est du commerce à pied. Aujourd'hui, on a un peu du mal à trouver un bateau, parce que j'ai entendu les gens rouler là, Donc 2040, même si le trafic augmente, à partir de combien de bateaux, ça devient un port animé
On va parler du port, non ? Et plus particulièrement du bassin du commerce qui est le plus visible. Le bassin du commerce fait environ 2 millions de tonnes réelles avec les céréales. 2 millions de tonnes, ça représente, suivant mes comptages, je crois, environ 6 à 7 bateaux par semaine. Et du côté du maïs en face, la malterie là-bas, c'est 2/3 de ces bateaux qui arrivent. Bon, c'est toujours un spectacle lent. Ça n'est pas le fourmillement, ça se trouve à Istanbul. Mais d'abord, c'est quelque chose de lent, quelque chose de lourd. 2 millions de tonnes, c'est quelque chose qui a assez peu évolué. Pardon ?
Le pont, il fait quoi? Un pont conteneur qui ramène le pont. Il fait le maïs
et le maire, on partait pas, avant on faisait la pierre, on faisait le fil de fer, on faisait les minutes, on faisait le charbon, c'était le dos. La pierre, c'est un petit mobile, c'est pas
un terre. Merci, c'est quoi aujourd'hui? La parole est à Nicolas Tacholet.
Je suis d'accord avec toi, vous n'êtes pas. La batterie, je crois que c'est une chose.
La batterie a beaucoup évolué au mieux et les bateliers en sont grandement responsables. Si on s'était pas battu agressivement contre le monde. Allez, on passe, Nicolas Tacholet. Nicolas Tacholet, je suis le directeur du domaine du Grand Honneur de Strasbourg. Donc je voulais quand même amener un témoignage qu'on a été quand même sévèrement pris à partie par la foule. J'aime bien toujours la poésie. Dans ses dessins et ses propos. D'abord pour dire que le port autonome de Strasbourg s'inscrit dans la démarche d'urbanisation et d'évolution urbaine de ce territoire, puisqu'on a cofinancé l'étude du schéma directeur des deux rives qui a été développé à la Rachette. On a toutefois sur le port nord beaucoup d'entreprises qui ont exprimé au travers du cahier d'espérance un certain nombre de préoccupations. Ces préoccupations sont trois d'abord. D'abord, elles ont besoin de visibilité sur l'avenir, c'est-à-dire continuer à investir sur ces sites, où est-ce que ces sites seront à terme des quartiers d'habitat. Elles auront des attentes vis-à-vis du port pour qu'on améliore l'attractivité et l'efficacité de la zone. Alors, comment je m'inscris dans cette démarche du schéma directeur des Hydroïdes, c'est que c'est un territoire qui est complexe pour nous, c'est le territoire central du port, dans lequel passent l'ensemble des infrastructures, qu'elles soient routières et ferroviaires. Donc, la zone centrale du port est vitale pour le fonctionnement de la zone nord du port. Nous, notre objectif, c'était de pouvoir à la fois permettre à la ville d'arriver sur ces territoires et contre l'habitat, mais que ce développement se fasse de manière harmonieuse, c'est-à-dire à la fois que les entreprises puissent continuer à exercer et à développer leur activité, et que les gens qui viennent habiter ici puissent y vivre correctement. Je vous inviterai quand même, quand vous sortez, à écouter le bruit des séchoirs, etc. Vous aurez un petit aperçu d'une ambiance qui ne sert pas forcément en fait, pour un certain type de population qui préférait la remettre sur le pour reprendre l'image que vous avez. C'est peut-être autre que ton truc. En fait, je voudrais juste conclure, il y a un travail qui a été assez intéressant qui est fait par l'Association internationale des villes et des ports, qui regroupe à la fois des villes et des ports du monde entier, que ce soit des ports maritimes ou des ports fluviaux, et dans leur guide finalement qui parle de comment faire la ville avec le port, on parle beaucoup de zones d'interface, c'est-à-dire comment en fait ne pas venir faire des confrontations directes entre des industries qui sont quand même des industries lourdes et la partie logement. Et donc c'est pour ça que ces zones de transition nous paraissent en tout cas être un élément essentiel de la réussite du projet urbain et en tout cas de la qualité de vie des futurs habitants.
À travers le passé, dans tout ce qu'on a vu, dans tout ce qu'on a, dans tous les projets qu'on a vus, quand il y a la cohabitation entre l'industrie et la population, ça ne s'est que très 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 rarement en zone intérieure bien passé.
Sauf à Barcelone.
C'est des ports de mer, ce ne sont pas des ports intérieurs. Tout comme j'ai.
Strasbourg est un port à passagers qui est d'une importance en matière de croissance.
Je suis d'accord avec toi, mais n'oublie pas une chose, Aldo, moi je le sais, tu l'as vu avant, je vais intervenir par rapport, c'est vrai que j'ai le siège de l'entreprise ici, mais tu as parlé du transport modal, il y a le fleuve, il y a le rail, mais il y a aussi la route. Et la route assume aujourd'hui 85% des transports. Ne l'oubliez pas.
Je vous avais parlé il y a quelques années à Brunas, déjà dans un dossier pour le port de Strasbourg, mais à l'époque l'échelle était plus grande. Je parlais en particulier de l'hyperinstallation Scarlett, est-ce que le fait de, en quelque sorte, concentrer sur le terrain de la Corée, est-ce que c'est pour avoir plus d'impact et faire des propositions qui vont plus dans le détail?
Donc je suis un bon voyageur.
Il me semble aussi qu'à l'époque, tu parlais beaucoup du despote éclairé. Et maintenant, me semble-t-il, c'est lutté en démocratie.
Alors c'est vrai qu'il y a 95% de la bouteille
qui tombe. Non, 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 c'est sûr, hein. Et qui veut en fait la courir, c'est vous dire.
Pour répondre à ta question, le bouquin s'est arrêté il y a pas très longtemps. J'ai senti, et ça tu vas le comprendre, que je me mets la possibilité de terminer une architecture de papier dans lequel je voulais illustrer le pouvoir fort nécessaire pour faire changer les lois par le despote, dont je rappelle quand même qu'il était éclairé. Éclairé par des artistes, ce qui est pas tout à fait la même chose que la dictature, mais j'ai jugé qu'il y avait une opportunité pour faire ici un quartier pour d'autres gens. Et je suis suffisamment professionnel et architecte pour savoir que l'architecture éventuellement construite, ça vaut mieux que l'architecture de papier, et donc je ne pourrais pas faire non à ce projet éventuel. J'ai provisoirement mis mon bouquin sur le monde.
Et à d'autres années de congé.
Je voulais juste dire quelque chose, il n'y a plus de questions. Je voudrais te tirer un grand chapeau, pour ce travail que tu as fait. On en discute ensemble de manière parfois compliquée depuis plusieurs années. Je crois que j'en ai à la fois, il faut dire que chez Manchester, c'est pas quelque chose qui est coupé dans le rose, et que les lignes de séparation entre les uns, entre l'habitat et l'activité, c'est quelque chose d'intangible, parce qu'on sait que la question de cette cohabitation, c'est quelque chose de compliqué, et que ça continuera à être compliqué, et donc on ne peut pas fixer tout comme ça. Juste pour conclure, un grand coup de chapeau pour ce travail, et j'espère qu'il, en nous faisant rêver, donc on nous projetera aussi en 2040 et pas seulement en 2015, à la fois de réfléchir sur l'avenir de ce côté et sur l'ensemble du secteur des
deux. Merci. Bravo.